Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 12 et le titre sera « La sainteté n'est pas une option ». Et le verset de Hébreux, chapitre 12, verset 14, dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chers amis, il y a des serviteurs de Dieu et des missionnaires qui pensent vraiment sérieusement qu'une personne qui lève la main lors d'une évangélisation, ainsi que ceux qui s'avancent lors d'un appel au salut pour recevoir la bénédiction par le pasteur, ils seront sauvés pour la vie. Alléluia. Amen. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est presque trop beau pour être vrai. Le prince des menteurs qui nous fait croire tout cela, il s'appelle Satan, Lucifer. Or, il y a des preuves irréfutables que beaucoup de ceux qui se sont décidés pour Jésus-Christ un jour ont abandonné la foi chrétienne quelque temps plus tard. Or, ce que la plupart d'entre nous ne savent pas ou l'ignorent, c'est que les vrais problèmes commencent, hélas, après la conversion, c'est-à-dire après avoir accepté le salut. Satan, le diable, il laisse ceux qui lui appartiennent absolument tranquilles, puisqu'ils lui appartiennent de toute façon. Or lui, Satan, avec tous ses démons, ils vont s'attaquer à tous ceux qui lui ont échappé. Donc, chers amis, cette série de CD concernant la sainteté va être de la plus haute importance pour nous aider à avoir la victoire sur celui qui a juré notre perte. Et vous savez, je ne suis pas du tout jaloux de tous ces retraités qui, une fois qu'ils ont reçu leur pension, ont décidé, bien qu'ils sont de vrais chrétiens, qui ne manquent jamais un culte dans leurs diverses églises, qu'ils soient catholiques ou protestants, et qui me disent parfois, maintenant que je n'ai plus besoin d'aller travailler le matin, eh bien, je veux faire le tour du monde. J'ai envie de voir d'autres peuples, d'autres cultures que je me suis refusé de connaître durant ma vie. D'autres me disent, moi j'aimerais tellement et j'aurais toujours aimé voir en Égypte, ces monuments historiques, les bâtisses extraordinaires que les pharaons ont construits en son temps, etc. D'autres encore veulent voir des musées très importants, connaître des choses qu'ils n'ont pas eu la possibilité de connaître pendant qu'ils étaient à leur travail. Donc, toutes ces choses inimaginables, ça, c'est donc quelque chose qui m'échappe. Parce que, voyez-vous, et je ne dis pas qu'on doit faire ce que je dis, c'est personnel, évidemment. Mais il me semble que on devrait plutôt se préparer pour l'au-delà que d'essayer de voir le monde entier et de visiter tous les musées du monde, etc., etc. À mon avis, voilà. Il me semble que c'est le moment où plus jamais on aura une autre occasion, c'est de nous préparer pour l'au-delà. Je crois. Bon, nous avons différents points de vue et j'accepte les points de vue des autres, bien entendu, mais mon devoir, c'est de vous aider que vous puissiez vraiment comprendre ce qui est en jeu. Vraiment. Car c'est sérieux quand même. Et il y a un nombre d'années où j'étais déjà chrétien, où je n'avais rien compris de tout cela, vraiment. Et normalement, j'aurais fait comme beaucoup d'autres, j'aurais essayé de faire le tour du monde. Mais heureusement que j'ai commencé à piocher un petit peu le vieux livre, ce vieux livre que beaucoup pensent que c'est quelque chose de dépassé et que ça fait partie des archives, pour des archives d'un certain âge. Bon, mes chers amis, vous qui écoutez ces CD, j'aimerais simplement vous aider à vous préparer aussi. Je ne dis pas qu'on doit devenir fanatique, pas du tout. Ou surtout pas. Nous avons le droit de continuer de vivre, bien sûr. Mais je pense que le problème spirituel est tout de même très important. Donc nous continuons notre série. Que signifie, chers amis, cette parole? Que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir et blanc. Est-ce que notre salut exige, en dernière analyse, que nous atteignions un certain niveau de sainteté? Point d'interrogation. La Sainte Bible nous donne deux réponses très claires. Tout d'abord, le meilleur des chrétiens ne pourra jamais mériter le salut par une parfaite sainteté personnelle. Notre justice est semblable à un vêtement souillé face à la sainte loi de Dieu. Est-il dit dans Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Du reste, même nos meilleures actions, elles sont tachées et ternie d'imperfection et de péché. Il y a quelques siècles, un chrétien avait écrit que même nos larmes de repentance, ont besoin d'être lavées dans le sang de l'agneau. Deuxièmement, la Sainte Bible parle fréquemment de l'obéissance et de la justice de Dieu en notre nom. De même, en effet, que par la désobéissance d'un seul homme, eh bien, la multitude a été rendue pécheresse, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Romains, chapitre 5, verset 19. En effet, le Christ lui-même, il est mort pour les péchés une fois pour toutes, lui, le juste, pour les injustes que nous sommes, afin de vous présenter à Dieu. 1 Pierre, 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Ces deux passages présentent donc un double aspect de l'œuvre de Christ pour nous. Les théologiens l'appellent son obéissance active et son obéissance passive. L'obéissance active désigne la vie sans péché de Jésus-Christ sur la terre. Elle désigne sa parfaite obéissance et son absolue sainteté. Cette perfection, elle est créditée à tous ceux qui placent en lui, en Jésus-Christ, leur confiance pour le salut. Il y a des versets ou des phrases que je vais parfois répéter une deuxième fois. Non pas parce que vous ne comprenez pas tout de suite, non, parce que je sais que vous êtes très intelligent, mais surtout pour que ce soit bien compris que certaines phrases sont de la plus haute importance. Donc maintenant, je vais dire la première de ces phrases. Son obéissance passive, elle fait référence à sa mort sur la croix par laquelle il a acquitté la dette de nos péchés et qu'il a apaisé la colère de Dieu contre nous. Je répète, son obéissance passive, elle fait référence à sa mort sur la croix par laquelle il a acquitté la dette de nos péchés et qu'il a apaisé la colère de Dieu contre nous. Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 9, nous voyons que Christ est venu pour faire la volonté du Père. Et ensuite, nous lisons, c'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ fait une fois pour toutes. Hébreux, chapitre 10, verset 10. Notre sainteté devant Dieu dépend donc entièrement de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous par la volonté de Dieu le Père. Je répète, notre sainteté devant Dieu dépend donc entièrement de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous par la volonté de Dieu notre Père. Le passage de Hébreux, chapitre 12, verset 14, parle-t-il donc de cette sainteté que nous avons en Jésus-Christ? Non. Car à présent, l'auteur parle d'une sainteté qu'il faut rechercher. Il nous demande de consacrer tous nos efforts à l'acquérir. Et sans elle, dit-il, personne ne verra le Seigneur. Je répète, l'auteur, il parle d'une sainteté qu'il faut rechercher. et il nous demande de consacrer tous nos efforts à l'acquérir. Et sans elle, dit-il, personne ne verra le Seigneur. La Sainte Bible parle à la fois d'une sainteté que nous avons en Jésus-Christ devant Dieu notre Père et d'une sainteté que nous devons rechercher. Ces deux aspects se complètent car nous sommes sauvés en vue d'être saints. Car nous sommes sauvés en vue d'être saints. En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons impurs, mais pour que nous vivions dans la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Jésus, dans le Christ Jésus, appelés à être saints. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, sanctifié, cela signifie ici rendu saint. Je répète, sanctifié, cela signifie être rendu saint. Par Jésus-Christ, nous obtenons un statut de sainteté devant Dieu et nous sommes appelés à être saints dans notre vie quotidienne. Je répète, par Jésus-Christ, nous obtenons un salut de sainteté devant Dieu et nous sommes appelés à être saints dans notre vie quotidienne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande donc de prendre au sérieux la nécessité de notre sainteté personnelle. Quand l'Esprit Saint entre dans notre vie au moment du salut, il a pour but de nous inculquer la sainteté en pratique. Donc, si nous n'avons pas au fond de notre cœur une aspiration à mener une vie sainte qui plaise à Dieu, nous devrions nous demander sérieusement si notre foi en Jésus-Christ est vraiment authentique. Je répète, si nous n'avons pas au fond de notre cœur une aspiration à mener une vie sainte qui puisse plaire à Dieu, nous devrions nous demander sérieusement si notre foi en Jésus-Christ est vraiment authentique. Il est vrai que ce désir de sainteté n'est initialement guère plus qu'une étincelle, mais il faudrait que celle-ci grandisse jusqu'à devenir une flamme. Oui, un désir de plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Le véritable salut, il est indissociable, je dis bien indissociable, du désir d'être rendu saint. Je répète, donc le véritable salut est indissociable du désir d'être rendu saint. Quand Dieu nous sauve par Jésus-Christ, il nous sauve non seulement du châtiment du péché, mais aussi de son pouvoir sur nous. L'évêque Ryle déclare « Je doute même qu'on ait le droit de prétendre qu'on soit converti sans être consacré à Dieu. » L'évêque Ryle, un célèbre homme de Dieu qui a écrit des commentaires fabuleux de la Sainte Bible, cet évêque dit clairement, il dit, je doute même qu'on ait le droit de prétendre qu'on soit converti sans être consacré à Dieu. Ça, c'est autre chose que d'aller voir les muséums dans le lointain monde. Certes, on peut toujours être consacré davantage, et on le sera à mesure que sa grâce se développe, mais si on ne s'est pas consacré à Dieu le jour même de sa conversion et de sa nouvelle naissance, eh bien je ne sais pas très bien quelle était la signification de cette conversion. En fait, le but véritable de notre salut, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Je répète, en fait, le but véritable de notre salut, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles devant notre Père Céleste. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Donc, continuer à vivre dans le péché en tant que chrétien, c'est tout à fait possible. C'était mon cas. Et oui, j'ai pas honte de vous l'avouer. J'allais même à l'église tous les dimanches. Alors, je dis continuer à vivre dans le péché en tant que chrétien, c'est aller à l'encontre de ce but. Du reste, un auteur chrétien a écrit « C'est un bien étrange salut auquel ils, au pluriel, auquel ils aspirent en ne se souciant guère de la sainteté. Ils veulent bien être sauvés par Jésus-Christ, mais ils vivent totalement hors de Christ dans leur nature charnelle. Ils veulent bien qu'on leur pardonne tous leurs péchés, non pour qu'ils puissent dorénavant marcher avec Dieu dans l'amour, mais pour qu'ils puissent exercer contre lui leur inimitié, sans avoir à redouter un quelconque châtiment. Par conséquent, la sainteté n'est pas nécessairement une condition préalable du salut. Ce serait donc un salut par les œuvres, bien entendu. Mais un élément du salut qui est reçu par la foi en Christ. Voyez-vous, l'ange avait dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, Jéhovah est le salut. » Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. Personne ne peut donc véritablement mettre sa confiance en Christ pour le salut s'il n'aspire pas simultanément à la sainteté. Je répète, personne, normalement, ne peut véritablement mettre sa confiance en Jésus-Christ pour le salut s'il n'aspire pas simultanément à la sainteté. Ceci veut dire non que cette aspiration soit nécessairement consciente quand la personne vient à Christ, mais que l'Esprit Saint qui suscite en nous une foi rédemptrice, suscite en même temps un désir de sainteté. Donc l'une ne va pas sans l'autre. L'apôtre Paul écrit, « Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve justice et piété. C'est écrit dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. La même grâce qui apporte le salut nous enseigne à renoncer à une vie déréglée. Nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu à moitié. Si nous l'avons vraiment reçue, eh bien nous aurons non seulement le pardon de nos péchés, mais nous serons aussi libérés de l'emprise du péché sur nous. Voilà donc justement ce que Jacques essaye de nous faire comprendre dans son passage si délicat sur la foi et sur les œuvres. Jacques chapitre 2 verset 14 jusqu'au verset 26. Jacques veut simplement nous dire qu'une foi qui ne produit pas d'œuvres, c'est-à-dire qui ne produit pas une vie sainte, elle n'est pas vivante, mais elle est morte. Je répète, une foi qui ne produit pas d'œuvres, c'est-à-dire qui ne produit pas une vie sainte, n'est pas une foi vivante, mais c'est une foi morte. Elle ne vaut guère mieux que celle qui possède les démons. La nature de Dieu, elle exige une vie sainte de la part des chrétiens. Avez-vous entendu cela? Elle ne dit pas aller faire le tour du monde, aller visiter les musées, aller voir les buildings énormes qu'ils ont construits au temps des pharaons, mais lorsqu'il nous appelle au salut, eh bien il nous appelle à la communion avec lui, ainsi qu'avec son fils Jésus-Christ. Notez s'il vous plaît, 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 3. Or Dieu, nous est-il dit, est lumière, et il n'y a donc pas de ténèbres en lui. 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 5. Comment serions-nous en communion avec Dieu si nous continuons à marcher dans les ténèbres? Ça me paraît impossible. Donc la sainteté, elle est indispensable pour être en communion avec Dieu. N'allez pas penser que c'est moi qui invente cela. Je ne permettrai pas de faire une chose pareille, car j'aurai un jour des comptes à rendre, moi, pour très bientôt, à passer 90 ans. Donc David a posé la question suivante. Seigneur, qui sera reçu dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Psaume, chapitre 15, verset 1. En d'autres termes, Seigneur, qui pourra vivre en communion avec toi? La réponse donnée dans les quatre versets qui suivent peut être résumée par « celui qui mène une vie sainte ». Celui qui mène une vie sainte. La prière est donc un élément essentiel de notre communion avec Dieu. Or, le psalmiste déclare « Si j'avais pensé à mal, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Psaume 66, verset 18. Penser à mal, ou selon une autre version, concevoir de l'iniquité, c'est entretenir un péché. C'est de l'aimer à tel point que je ne veux pas m'en séparer. J'exagère maintenant en vous disant j'aurais toujours aimé fumer un joint. Rassurez-vous, j'en ai jamais fumé. Mais c'était une curiosité, entre nous, une curiosité malsaine. Eh bien, il est une grâce merveilleuse que je ne l'ai jamais fait. Alors je sais que le mal existe, mais je sais aussi que le bien existe. Et je le justifie d'une façon ou d'une autre, comme l'enfant qui dit, c'est lui qui a commencé, c'est pas moi. Et quand nous nous cramponnons à certains péchés qui nous tiennent vraiment, nous ne progressons en rien, vers la sainteté, c'est impossible. Et il nous est donc impossible d'être en communion avec Dieu. Tant que j'ai des fortes attaches qui me tiennent, ça peut aussi être de boire un verre de trop. Voyez-vous, pour cette communion, le Seigneur n'exige pas que nous menions une vie parfaite et absolument sans péché, mais tout simplement que nous prenions la sainteté très au sérieux et que nous nous attristions. Nous devrions être attristés de certains de nos péchés au lieu d'essayer de les justifier et que nous nous mettons sérieusement en quête de la sainteté. Celle-ci est également nécessaire pour notre bien-être. La Sainte Bible dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tout fils qu'il accueille. » Hébreux chapitre 12, verset 6. Cette affirmation-là, elle présuppose que nous avons besoin de discipline. Je répète, nous avons besoin de discipline, de volonté, et que Dieu ne l'exerce pas au hasard. Il nous corrige parce que nous en avons besoin. Plus nous persistons dans la désobéissance, plus nous avons donc besoin d'être corrigés. Certains chrétiens de Corinthe étaient même allés si loin qu'il avait fallu que Dieu leur ôte même la vie. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. J'ai, moi qui vous parle sur ce CD maintenant, j'ai à un cheveu près fait partie de ceux-là. Et oui, et j'ai pas honte de dire la vérité. Voici donc comment le célèbre David décrit le châtiment de Dieu. Tant que je me taisais, dit-il, mon corps s'épuisait à grogner tout le jour, car jour et nuit, ta main pesait sur moi, ma sève s'altérait aux ardeurs de l'été. Psaume 32, versets 3 et 4. Quand Dieu nous parle à propos d'un péché, il faut que nous l'écoutions et que nous agissons. S'abstenir de régler ce problème-là, c'est de risquer d'encourir un châtiment encore plus sévère. Voici le témoignage d'un pasteur. Écoutez bien. Il dit, les routes ce jour-là étaient verglacées quand je m'engageais dans l'allée qui menait au bureau où je travaillais. Or, soudain, je perdis le contrôle de ma voiture et j'ai éraflé fortement le montant du portail. Dans des circonstances semblables, un collègue avait déjà abîmé le même poteau que je n'avais donc enfoncé que davantage. Je n'en soufflais mot à personne ni à l'intendant des lieux, malgré quelques coups de coude assez discrets de la part de Dieu. Or, 2 semaines plus tard, j'ai eu un autre accident, heureusement sans gravité, après 15 ans de conduite sans aucun problème. Alors là, j'ai commencé à comprendre que Dieu essayait d'attirer mon attention, ou si j'ai téléphoné aussitôt à l'intendant pour lui avouer mon premier accident et pour lui proposer de verser le prix d'un nouveau poteau. Comme le dit l'apôtre Pierre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre. 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 17. Chapitre 1 de 1er épître de Pierre, verset 17. Voyez-vous, Dieu ne plaisante pas quand il demande à ses enfants de vivre de manière sainte. Il est prêt à les corriger pour les y amener. Chers amis, la sainteté est encore nécessaire pour servir Dieu d'une façon efficace. L'apôtre Paul écrit à Timothée, « Celui qui se purifie de ses souillures sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute œuvre bonne. » 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Donc notre sainteté et notre utilité sont absolument liées. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans un vase impur. Celui qui rend efficace notre service et nous donne la puissance dont nous avons besoin, c'est l'Esprit Saint. Notez bien qu'il s'appelle l'Esprit Saint. Autrement dit, c'est tout simplement l'Esprit de sainteté. Quand nous cédons à notre nature pécheresse et que nous demeurons dans l'impureté, nous attristons l'Esprit Saint de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 30, et notre service ne sera pas une réussite. Je ne parle pas ici des gens qui tombent dans la tentation et qui demandent immédiatement pardon à Dieu. Mais je parle de ceux qui vivent dans une désobéissance flagrante. Voyez-vous, la sainteté est également nécessaire pour notre assurance du salut, non pas au moment de la conversion, mais dans le cours de notre vie, aujourd'hui même. La foi véritable, elle se manifeste toujours par ses fruits. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je me souviens d'un jeune homme qui était devenu chrétien peu de temps auparavant. Il s'apprêtait à recevoir la visite de son père, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années, et il avait hâte de lui annoncer la foi qu'il venait de trouver. Aussi, c'est un serviteur de Dieu qui dit cela, j'ai prié avec lui pour qu'il soit un témoin efficace auprès de son père. Or, quelques jours plus tard, on lui a téléphoné et on lui a demandé comment l'entrevue s'était déroulée. Eh bien, le père avait prétendu qu'il avait mis sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur à l'âge de 10 ans, en s'avançant lors d'une réunion importante d'évangélisation qui avait été donnée par le célèbre Billy Graham. Je demandais donc au jeune homme, durant toutes ces années, « N'as-tu pas remarqué que ton père était vraiment un chrétien ?» Alors il m'a répondu par la négative. « Quelle raison aurait-on de croire au salut de cet homme ?» Il était âgé maintenant de passer 60 ans et pas une fois il n'avait donné l'impression à son fils d'être un chrétien. Le seul signe infaillible de notre position en Jésus-Christ, c'est tout simplement une vie sainte. L'apôtre Jean affirme que quiconque a cette espérance-là, cette espérance de la vie éternelle, se purifie comme Jésus-Christ est pur. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 3. L'apôtre Paul dit, « En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui se sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Romains, chapitre 8, verset 14. Si nous n'avons aucune idée de ce que est la sainteté, nous avons beau nous targuer d'être chrétiens, car l'Esprit Saint ne demeure pas vraiment en nous. Par conséquent, quiconque prétend, on peut prétendre, être chrétien, devrait se poser la question, y a-t-il vraiment des preuves tangibles de sainteté dans ma vie? Est-ce que je désire cela? Est-ce que je recherche vraiment la sainteté? Ou est-ce que j'aimerais profiter d'aller voir le monde et les peuples même primitifs, s'il en existe encore, pour découvrir comment ils vivent? Est-ce que je regrette vraiment, vraiment, d'en être si dépourvu, tout en demandant à Dieu, évidemment, de m'aider à y parvenir? Alors, il ne suffit pas du tout de prétendre de connaître Jésus-Christ pour entrer au paradis, mais il faut vivre de manière sainte. Voyez-vous, Jésus a dit, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Est-ce pas en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai, mais je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Heureusement, il y a un remède. Je dois sincèrement me repentir. Amen. Chers amis, j'aimerais maintenant vous transmettre quelque chose que j'ai reçu du Seigneur par le Saint-Esprit pour vous le communiquer, pour vous aider à continuer, d'avoir courage, de continuer la lutte et pour vous encourager à tout point de vue. Écoutez bien. Il y a des paroles qui semblent dures à plusieurs d'entre nous. Renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez Jésus-Christ. Mais il sera bien plus dur au dernier jour d'entendre cette parole qui dit « Retirez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel. » Ceux qui écoutent maintenant volontiers la parole qui commande de porter la croix et qui obéissent ne craindront point alors d'entendre l'arrêt d'une éternelle condamnation. N'oublions pas que ce qui signe de la croix, ce signe de la croix, il sera un jour dans le ciel. Et c'est là, lorsque le Seigneur viendra pour nous juger. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors tous les disciples de la croix qui auront imité pendant leur vie Jésus crucifié s'approcheront avec une grande confiance de Jésus-Christ, le divin juge. Pourquoi donc craignez-vous de porter la croix, par laquelle on arrive au royaume du ciel? Sachez que dans la croix se trouve le salut, dans la croix se trouve la vie, dans la croix il y a la protection contre nos ennemis. Dans la croix se trouve la force de l'âme. Dans la croix, il y a la joie de l'esprit, la consommation de la vertu, la perfection de la sainteté. Il n'y a de salut pour l'âme, ni l'espérance de vie éternelle, que dans la croix, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Prenez donc votre croix et suivez Jésus, et vous parviendrez à l'éternelle vie. Il vous a précédé portant sa croix, et il est mort pour vous sur la croix, afin que vous aussi vous puissiez porter votre croix et que vous aspirez à mourir sur la croix. Car si vous mourrez avec lui, eh bien vous vivrez aussi avec lui. Et si vous partagez ses souffrances, vous partagerez ainsi aussi sa gloire. Il n'est point d'autre voie qui conduise à la vie et à la véritable paix du cœur que la voie de la croix. Allez où vous voudrez, cherchez tout ce que vous voudrez, et vous ne trouverez pas au-dessus une voie plus élevée ou au-dessous une voie plus sûre que la voie de la Sainte Croix. Disposez de tout selon vos vues, réglez tout selon vos désirs, et toujours vous trouverez qu'il vous faut souffrir quelque chose, que vous le vouliez ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix, car ou vous sentirez de la douleur dans le corps, ou vous éprouverez de l'amertume dans votre âme. Tantôt, vous serez délaissé de Dieu, tantôt exercé par le prochain, et ce qui est beaucoup plus encore, vous serez souvent à charge à vous-même. Vous ne trouverez à vos peines aucun remède, aucun soulagement, mais il vous faudra souffrir aussi longtemps que Dieu le voudra, car Dieu veut que vous appreniez à vous soumettre à lui sans réserve et que vous deveniez plus humble, car par nature nous sommes orgueilleux. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Père des Lumières, auprès duquel il n'y a ni changement, ni alternative de clarté et de ténèbres, et de qui provient tout don parfait, nous t'apportons nos louanges et nos actions de grâce. Notre cœur est plein du resplendissement de la face, et notre esprit acclame le don que tu nous as fait en Jésus-Christ, la lumière du monde. Mais notre trouble est profond, car notre gratitude ne s'est pas assez manifestée en paroles ni en actes. Nous n'avons pas voulu laisser pénétrer la lumière assez avant dans notre cœur, et que avons-nous tenté pour qu'elle se propage à travers le monde? Oh, qu'il puisse en être désormais autrement, que ta lumière nous pénètre toute entière, et qu'elle nous transperce, et qu'elle chasse toute obscurité, que nous devenions tes messagers auprès de tous ceux qui en sont encore éloignés, que tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ sachent aussi l'honorer par leur vie et par leurs actes. Sois nous en aide, ô Seigneur notre Dieu. Bénis toutes les entreprises missionnaires, fais de tes messagers de vrais témoins et de vrais héros du Christ. Ô Seigneur, que ta lumière resplendisse sur tous les peuples et que ton règne vienne bientôt. Amen. Et chers amis, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous dis oui, je vous aime et je vous embrasse et je vous dis soyez maintenant bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant, j'essaye de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé. Et j'espère que ça fonctionne, parce que hier, ça n'a pas fonctionné. Essayons.
Jésus ne veut rien. S'il se croit fort pour le maîtriser, Jésus ne veut rien.
Je crois, Seigneur, que toi seul tu es.
dont Jésus-Christ vécu sur la terre. Ô Dieu, quel tourment! Les hommes jaloux s'en débarrassèrent. Mon Dieu, quel tourment!
Pourtant, Jésus
chante, je chante mon bonheur, et ce chant, c'est l'amour de mon Dieu.
J'ai Fais-moi dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, qui efface ma peur et me donne la paix. C'est une loi dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, cette joie, c'est l'amour de mon Dieu. Toi qui portes sur moi un regard plein d'envie, qui désire cette joie pour toute ta vie, accepte Jésus-Christ, simplement crois en lui, et tu auras la joie dans ton cœur. J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, qui efface ma peur.
J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, qui efface ma peur et me donne la paix. J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, cette joie, c'est l'amour de mon Dieu. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour porter mon péché et me donner la vie. Et maintenant je chante son amour, cet amour, c'est l'amour de mon Dieu. J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, qui efface ma peur et me donne la paix. J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, cette joie, c'est l'amour de mon Dieu.
Si le monde m'abandonne, je sais qu'il m'aime encore et qu'il veille sur moi, même quand je m'endors. Voilà pourquoi je chante mon bonheur, et ce chant, c'est l'amour de mon Dieu.
J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, qui efface ma peur et me donne la paix. J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, cette joie, c'est l'amour de mon Dieu.
Toi qui portes sur moi un regard plein d'envie, qui désire cette joie pour toute ta vie, accepte Jésus-Christ, simplement crois en lui, et tu auras la joie dans ton cœur.
J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, qui efface ma peur et me donne la paix. J'ai une joie dans mon cœur que nul ne peut m'ôter, c'est l'amour de mon Dieu. Cette joie, c'est l'amour de mon Dieu.
Mmh. Thank you. Are you ready?
Only had 5 minutes more to live. Tell me honestly, what would you do? Are you ready to open that unknown door? Does eternity mean life for you? Every word, every deed you have said and you've done, you just can't relive them nor change anyone. In this 5 minutes more, have you peace deep within? If not, look to Jesus, let
done for Christ.